Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. On est diffusé également à BPM Sport les lundis soirs et également en reprise, à quelques reprises durant la semaine avec Sergent Ball en votre compagnie. Et j'ai retrouvé ma voix déjà, c'est une bonne nouvelle parce que le dernier épisode a été souffrant pour moi. Et sûrement pour vous aussi. Cela dit, c'était quand même belle fun d'avoir Jorge Fernandez avec nous. Ça a été vraiment, vraiment une bonne entrevue sur les succès de Léla, qui se poursuivent d'ailleurs. On va en parler cette semaine. Nicolas Richard, c'est à toi que je m'adresse en premier. Ça fait un petit peu qu'on ne t'a pas vu. Comment te portes-tu? Comment vas-tu, mon cher ami?
Ça va très bien, mais je dois t'avouer que le mix de Garou et de Dan Bigra la semaine dernière, Alex, j'ai pas détesté ça.
T'as été charmé, hein, quand même. Non, mais je l'ai réécouté, là, vraiment. Honnêtement, c'était moins pire que ce que je pensais.
Il y avait une chaleur. Il y avait une chaleur, il y avait une proximité. Non, j'ai pas détesté ça.
Mais c'était souffrant. C'était souffrant. Puis j'ai presque pas de voix le lendemain non plus. Là. Ça a pris vendredi ou à peu près, j'ai retrouvé ma voix. Hugues, en direct du Parc Jarry, commence à avoir beaucoup de plus de feuilles de couleur là, dans ton un des plus beaux parcs, sinon le plus beau parc à Montréal.
Ouais, puis les filets sont toujours là. Si vous avez envie de jouer, profitez-en. Il reste encore quelques jours. Il paraît que la météo va remonter d'ailleurs dans les prochains jours. Profitez-en. On étire la saison cette année. Puis, je suis de bonne humeur, Alex, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui se préparent pour la fin de l'année avec l'équipe de Coupe Davis qui a été annoncée. On va en parler à Blaine King Cup qui s'en vient. Et justement, qui n'était pas en train de s'entraîner hier au Centre national? Eugénie Bouchard avec Sylvain Bruno. Donc, Eugénie se prépare, on le sait. Elle a été sélectionnée pour l'équipe, la Billie Jean King Cup. Donc, j'ai bien hâte de voir si elle aura une place dans l'horaire pour la finale de la Billie Jean King Cup. Mais elle était en entraînement très sérieux avec Sylvain Bruno hier au Centre national.
C'est une fille des grandes occasions. Ouais. Maintenant, si elle voit beaucoup de temps de jeu, je vais m'en voir assez surpris. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en avant d'elle présentement. Mais il reste que même si tu la mets sur le terrain et que tu t'attends à rien, c'est possible qu'elle nous surprenne. Oui. C'est possible qu'elle aille chercher une victoire. C'est ça l'avantage d'avoir une certaine profondeur comme ça quand tu as une Eugénie Bouchard sur le banc qui peut très bien sortir une performance et battre parmi les meilleures joueuses.
Oui, parce que c'est une joueuse d'attaque qui provoque des choses. Donc, elle pourrait surprendre effectivement si elle est sur le terrain.
Bien de voir ça. Bon, on va parler des succès de Léla, de l'équipe canadienne qui s'en vient également. On va parler de Félix qui ça a débloqué pas mal. Et Abraham Santerre va venir nous parler un peu plus tard du tournoi à Saguenay. Il a passé la semaine là. Il va nous faire un débrief de comment ça s'est passé. Puis il va nous faire sa chronique traditionnelle des autres Canadiens. Commençons avec, à tout seigneur, tout honneur, celle qui tranquillement s'en va chercher le titre de joueuse de l'année facilement aux honneurs de sur la ligne. Léla Annie Fernandez, une autre bonne performance après un titre. Bon, elle a perdu contre Siniaková, qui venait tout juste de battre, mais c'est quand même une autre demi-finale et c'est plus qu'une bonne performance.
8 victoires de suite pour Léla Fernandez. Siniaková, rappelons-le, a gagné le tournoi la semaine dernière, donc elle a perdu contre éventuelle championne. Ça avait été un match très serré la semaine d'avant à Hong Kong, le tournoi que Léla a gagné. Mais je retiens surtout la progression fulgurante en ce moment de Léla au classement, qui se retrouve à la 34e position. N'oubliez pas, les gars, que juste au début du mois de juillet, elle était autour de la 95e position. Donc, c'est quand même un retour au plus haut niveau pour Léla. Et je pense qu'elle va encore continuer de progresser. Mais visiblement, le fait que Jorge a repris le contrôle de ses entraînements, pour moi, ça a un impact direct sur ses résultats. Elle joue vraiment son meilleur tennis en ce moment. Léla Fernandez, c'est vraiment réjouissant de l'avoir bien joué comme ça.
Nico, commentaire général sur cette autre bonne performance de Léla Fernandez, une demi-finale. Défaite contre Siniaková, un match plus connaître.
Ben pour moi, les gars, il y a deux trucs. D'abord, on dirait qu'à chaque année, il y a une tendance canadienne de gagner en toute fin de saison. Souvenez-vous, Shapovalov à Stockholm il y a quelques temps. Félix l'an passé, Léla cette année. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont des auditeurs réguliers de sur la ligne et qu'ils veulent avoir du jus même après le US Open. C'est peut-être ça, c'est ce que je soupçonne. De l'autre côté, oui, on parle beaucoup de Léla, de son succès présentement. Hugues en a parlé de sa montée au classement. Mais pour moi, ce qui importe présentement, c'est que cette remontée au classement offrira à Léla de meilleures places, notamment dans les tournois importants de début de saison l'année prochaine. Je pense évidemment à l'Omnium d'Australie, les gars. Il y a une très, très grande différence entre être 35e et être 90e dans un tableau du Grand Chelem. Présentement, Fernandez est en train de consolider sa place dans un meilleur tableau, possiblement pour l'Omnium d'Australie. Et si elle peut justement surfer sur cette séquence de cette saison, en début de saison 2024, c'est que du bonbon présentement pour Layla. Je vois plus à moyen et long terme là, pour elle présentement que le succès qu'elle connaît à l'heure où on se parle.
Bien, ce qui est certain, c'est qu'elle est en train de sauver sa saison. Ça, c'est certain. L'essentiel de la saison, là, avant le début de l'été, disons, avant le milieu de l'été, on se disait presque que c'était une saison difficile pour Layla.
À oublier, carrément.
Bien, je ne sais pas si tu as oublié, parce que c'est quand même difficile là, de jouer à ces niveaux-là, mais il reste que, disons, depuis Washington, là, on disait, bon, un tournoi sur deux, elle avance quand même, elle gagne beaucoup de matchs dans les tournois. Washington, c'était des matchs de qualification, mais il reste que c'était des victoires qu'elle enchaînait pour une première fois depuis un bon bout. À Montréal, force est d'admettre que ça a bien été. Après ça, c'était presque un tournoi sur deux. Mais là, trois de ces quatre derniers tournois, ben, ce sont des excellents résultats, dont un titre également. Alors, honnêtement, c'est pas gênant pour cette performance-là de Layla. Est-ce que ça va se poursuivre, Hugues, selon toi? Est-ce que, bon, la fin de la saison, sans que ce soit une saison à la Félix ou Aliassime, ça va se ressembler un peu?
Moi, j'ai bien confiance qu'elle va jouer son rôle de leader lors de la Billie Jean King Cup, des finales, de la meilleure des façons, comme elle l'a fait dans le passé déjà. Et je suis rassuré. Vous savez, je vous disais en début de saison, j'étais un peu inquiet de sa façon de jouer avec sa petite stature. Les matchs qu'elle a gagnés depuis deux semaines m'ont rassuré sur sa capacité, malgré ses 5 pieds et 6, à rester sur la ligne, à contrôler des joueuses très puissantes comme Siniakova. Donc oui, je pense qu'elle est repartie là, pour une phase extrêmement positive. Et les analyses tactiques que Jorge Fernandez nous a données sur pourquoi elle jouait comme elle jouait puis comment ils travaillent ensemble me donnent beaucoup, beaucoup de confiance. Je pense qu'on va revoir la fille qu'on attendait de façon régulière dans le top 20, top 15. Je ne pense pas que Layla, c'est une première joueuse mondiale, mais c'est une joueuse qui a sa place dans le top 20, top 15. Et de la façon où elle progresse en ce moment, je pense qu'elle est repartie pour une bonne séquence là, et ça va se poursuivre vers le haut dans les prochains mois.
Il ne faut pas oublier qu'elle vient de perdre aussi contre une joueuse qui est tout aussi en feu qu'elle. Là, Siniakova, ben, c'était la finaliste du dernier tournoi où Layla l'a emporté. Là, Siniakova, elle a remporté ce tournoi-là après avoir défait Layla. Elle a d'ailleurs battu sa compatriote Buzkova. Je pense que dans les circonstances, c'est plus qu'une défaite honorable. Je pense que c'est très, très, très solide du côté de Layla. Et honnêtement, je pense que c'est très, très encourageant pour la fin de la saison, voire même le début de la saison prochaine. Pour ce qui est de Siniakova, ben, c'est un deuxième titre pour elle cette année. Mine de rien, hein, on la voit toujours, enfin, on en parle souvent d'elle comme une excellente joueuse de double. Et c'est le cas, c'est une des meilleures joueuses de double au monde. Mais elle a quand même deux titres en simple et une finale cette année. Alors, écoutez, c'est pas gênant, comme on dit dans le cas de Siniakova. Alors, c'est pas pour dire à quel point là, cette défaite-là, ben, elle est. C'est une joueuse de très haut niveau là, qu'elle est là à affronter. Avant qu'on passe à d'autres sujets, je veux quand même qu'on reste sur les Canadiens parce que Félix Auger-Aliassime, ça s'est quand même relativement bien passé. Est-ce que. Et que je vois les yeux déjà. Non, mais quand même, il a enchaîné deux victoires. Quand même, c'est pas si mal. Commentaire sur cette performance-là de Félix?
Ben oui, c'est sa première séquence de deux victoires depuis le mois de mars. Là. Mais bon, encore une fois, il joue pas à son niveau, Félix, en ce moment. Je pense qu'il y a des ajustements qu'on souhaite voir dans les prochaines semaines. C'est sûr que Giron est un joueur qui est en forme en ce moment. C'est un joueur qui progresse au niveau du classement. Un autre Américain là, qui est dans le top 50. On reparlera des succès américains un petit peu plus tard. Mais Félix, encore une fois, je suis encore en mode attente. C'est pas une séquence suffisante pour moi, le fait qu'il a aligné une victoire après un premier match pour me rassurer pour la suite. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette semaine à Bâle, tournoi qu'il a gagné l'an passé. Il a 500 points à défendre. Il défend sa place dans le top 20 cette semaine. Il ne peut pas faire une contre-performance à Bâle cette semaine. Et il y a le Master de Paris qui s'en vient la semaine prochaine aussi. Donc, c'est là qu'on va voir là, si Félix a vraiment réussi à passer à un autre niveau après une saison compliquée.
Nico, est-ce que tu es plus positif que Hugues dans les circonstances?
plus, ben, c'est plus que je me dis, sans dire long sur la saison d'un joueur, quand on se réjouit qu'il gagne deux matchs de suite.
C'est ça. Les quarts de finale, là.
Ouais, oui, mais c'est un tableau 32. C'est ça. Ça reste que lorsqu'on fait un bloc spécial sur une séquence de deux victoires consécutives, pour moi, sans dire long sur la saison d'un joueur, ultimement, est-ce qu'il a gagné ses matchs? Oui. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite à Félix? Évidemment. Mais comme Hugues l'a dit, les gars, puis on en a parlé tout l'été, la séquence automnale de Félix sera périlleuse parce qu'il a des points à défendre. Il faut s'attendre à une chute au classement. Il faut s'attendre à le voir dégringoler. C'est normal. Après, s'il gagne des matchs, on va s'en réjouir, évidemment. Mais si je regarde le portrait global, ce n'est pas cette séquence-ci là, qui va me faire changer d'avis sur la saison de Félix.
Mais là, les gars, je vous trouve quand même sévère parce que, ben franchement, on a demandé des résultats. Je pense que le quart de finale, c'est quand même pas si mal. Il y avait beaucoup de bons joueurs dans ce tournoi-là quand même. On va en parler, là. D'ailleurs, quand je regarde le tableau de Ben Shelton, là, c'était pas gênant à Tokyo. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? On va en parler un peu plus tard. Mais il reste que on cherchait du positif. Vous n'allez pas me dire que c'était pas du positif cette semaine dans le contexte de sa saison, là.
Je dirais que c'est le minimum acceptable, Alex. Oui, c'était un bon tableau, mais c'est un tableau de 32 seulement. C'est un petit tableau. Il gagne deux rondes. Il fait quelques points, mais bon, il n'a pas battu de gros noms, là. Donc, pour moi, je suis encore en mode attente pour voir s'il va un petit peu mieux. Je suis content qu'il y ait eu ces deux matchs-là. Ça débloque, là. Je pense qu'il devait être soulagé de pouvoir aller chercher un deuxième match en 8 mois, mais c'est pas significatif pour moi ce tournoi-là encore. C'est la suite qui va l'être. C'est cette semaine et la semaine prochaine.
Ben, c'est plus sur ce que Hugues vient de souligner, c'est-à-dire que s'il avait battu Shelton et Fritz coup sur coup, par exemple, là, on serait peut-être dit « OK, wow, attends, est-ce que le Félix des beaux jours est revenu? » Mais là, oui, bon, Hugues en a parlé tantôt des adversaires qui étaient dans de relatives formes, je veux dire, dans la mesure où ça allait quand même bien, mais ultimement, c'est pas deux grandes victoires là, de Félix qui vont faire en sorte que sa saison vienne prendre un nouveau cap. Là.
Est-ce que c'est la défaite contre Giron qui vous laisse un goût amer où il a absolument pas rivalisé et il s'est fait battre à plate couture, comme on dit?
Ben oui, parce que Giron, c'est un bon baromètre. C'est un joueur qui va bien sur le circuit en ce moment, mais il s'est fait un peu rincer, Félix, là, dans ce match-là. Donc voilà. Donc il n'y a pas grand-chose pour moi qui peut nous dire, OK, il est passé à une autre étape. C'est seulement ça. S'il avait été plus près de Giron, ça nous aurait dit, OK, il rivalise avec un joueur qui est en progression en ce moment, ce qui n'est pas le cas pour Félix, mais il n'a pas vraiment rivalisé avec ce joueur-là, qui reste un joueur, encore une fois, qui n'est pas dans le top 20 encore. Donc, je suis encore en mode attente, les gars.
Mais ultimement, c'est plus que les standards, pour cette saison-ci, n'existent plus. Pour moi, la progression puis le niveau de Félix vont être beaucoup plus faciles à évaluer l'année prochaine, parce que Félix Auger-Aliassime, depuis son arrivée chez les pros, n'avait pas connu de séquence, disons, difficile. Il la connaît présentement. Donc, lorsqu'il prendra une pause après la Coupe Davis, lorsqu'il aura enfin une entre-saison qui a du bon sens, qu'il reviendra l'an prochain frais dispo, après avoir traversé ce genre d'épreuve, pour moi, c'est là qu'on pourra véritablement voir la valeur de Félix Auger-Aliassime. Présentement, on prend ce qu'il nous donne, mais c'est dur de l'évaluer, je trouve.
OK. Intéressant. Et je vais juste faire une parenthèse. Il y a un auditeur qui nous écoute régulièrement et qui commente à peu près chacun de nos épisodes. Et puis, la semaine passée, il a ouvert la discussion sur le fait que Casper Ruud, on a souvent fait la comparaison entre Félix et Casper Ruud. Il lui disait que c'était malhonnête de certains comparer Casper Ruud à Félix parce que à la race, il est beaucoup mieux classé. Et moi, mon argument, c'était celui du fait que c'est quelques gros tournois sur terre battue qui ont changé la donne pour Casper Ruud dans le terme de classement. Mais quand on regarde beaucoup de ces tournois, il a perdu encore rapidement dans des tournois assez rapidement. Et ça a été encore le cas à Tokyo. Là, il a encore perdu au deuxième tour. Là, alors, je comprends là, que ce n'est pas nécessairement une comparaison idéale, là, puis l'argumentaire fait beaucoup de sens sur la race. Mais au-delà de ça, je veux dire, je trouve ça cool que les gens commentent puis nous
comprennent. Ben oui, on veut échanger avec vous, c'est super.
Mais en, puis gênez-vous pas pour le faire, puis cet auditeur-là qui le fait presque à chaque épisode, honnêtement, c'est plus qu'apprécié, puis merci de nous écouter, puis merci de nous challenger. On va ouvrir la discussion, puis si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on jase, là, et vous trouvez qu'on ne parle pas assez de tel ou tel sujet, là, vous gênez pas, alors ça me fait plaisir. Alors je salue cet auditeur-là qui commente à peu près chacun de nos épisodes, et c'est plus qu'apprécié.
Ouais. Les gars, juste un dernier point sur Félix. Là. On n'a pas mentionné les deux joueurs qu'il a battus. Il a battu au premier tour Vukic, qui est quand même quoi, 56e mondial. C'est en 3-7 compliqué. On rentrait dans le même pattern que d'habitude. Tie break au premier set, tie break au deuxième set. C'est pas une victoire contre un joueur standard là, du circuit en ce moment, en Vukic. Et il bat au deuxième tour Hofner plutôt facilement. Là. C'est quoi, 6-4, 6-1. Mais encore une fois, c'est pas des gros noms du circuit. Donc, tant mieux. Il a enlevé he's got a monkey off his back. Après ça, je dirais, là, c'est de réussir à passer deux tours. Mais attendons voir ce qui va se passer cette semaine dans un gros, gros ATP 500 où il y a des points à défendre en plus. Et c'est vraiment cette semaine qu'on va voir là, dans quel état est Félix.
Avant qu'on ait fait un tour du côté de Bâle où Félix va jouer, je veux quand même qu'on reste à Tokyo quelques instants pour parler de Ben Shelton, qui, honnêtement, là, c'est la grande éclosion cette année pour lui, là, sans aucun doute. Il nous avait, titillé l'année passée là, avec quelques résultats intéressants, mais là, cette année, c'est la grande éclosion pour Ben Shelton et puis a remporté ce titre-là à Tokyo dans un contexte, encore une fois, complètement spectaculaire contre Karatsev, la resurgence de Karatsev. Ouais. Il a battu Tommy Paul dans ce tournoi-là et Jordan Thompson aussi, qui est toujours un adversaire à la moustache très coriace. Alors, belle victoire pour Ben Shelton. Commentaire sur cette première victoire en carrière pour Ben Shelton, Hugues?
Ben, Shelton, moi, je pense qu'on voit un grand champion émerger en ce moment. Grand joueur gaucher avec de la personnalité, un service de feu. Il se retrouve à la 14e position du classement cette semaine. On a maintenant 4 Américains dans le top 15, les gars. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais là, ce qui se concrétise, c'est quand même significatif du côté américain.
Et c'est juste le début.
Et pour moi, Ben Shelton est celui qui va mener tout ce groupe-là. Il va passer devant Fritz et devant Tiafoe, selon moi, et devant Tommy Paul aussi. Donc, on a un grand champion qui arrive là, très jeune et qui a une poussée complètement fulgurante depuis 2 ans. Il n'était même pas sur le radar il y a 2 ans encore, Shelton. Il est pro depuis le début de l'année, en gros, pro à temps plein, on va le dire comme ça. 14e position mondiale, quart de finale, demi-finale dans deux tournois du Grand Chelem cette année, puis une première titre ATP. Attention, là, a star is born avec Ben Shelton.
Ah, puis, tu sais, il a un charisme fou, on l'a dit, là. Lui, Banks, là, écoute, le tennis américain, là, va nous donner Tiafoe, va nous donner beaucoup de jus dans les médias, là. Il y a beaucoup de charisme du côté du tennis américain, puis si les résultats commencent à venir, ben, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je le répète, je ne veux pas m'acharner sur le cas de la Coupe Davis, mais ça ajoute à cette défaite inacceptable des Américains dans la phase précédente.
Ouais.
Nico, toi là, qui es un fan de ce genre de truc, là, il est devenu, ils sont devenus le 4e duo père-fils à remporter un titre sur le circuit de l'ATP. Phil et Taylor Dent l'avaient fait aussi. Ramanathan, Ramesh Kirchan l'avait fait également. Et le dernier duo père-fils, Nico, quel est-il un de tes duos père-fils préférés, une de tes familles préférées dans le monde du sport?
Je dirais les prestigieux Korda.
Ah oui.
Peter et Sébastien Korda, voilà la famille préférée de Nicolas Richard. D'ailleurs, si Nicolas Richard, vous lui posez la question « Avec qui aimerais-tu aller prendre un verre? » Tu peux choisir n'importe qui. Il dit « Je veux aller à l'Action de grâce chez les Korda puis jaser avec eux. » Me trompe pas?
Exactement. Mais juste pour compléter sur Shelton, Alex, ce que je trouve remarquable, c'est que ce titre-là vient un peu mettre une cerise sur le Sunday de cette saison tout à fait fantastique. Les gars, on suit le tennis. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient sur leur carte de bingo, du moins pour l'année 2023. Il a commencé très, très fort en Australie. Mais outre ça, il n'a jamais arrêté de surprendre. Puis je me rappelle d'un échange que j'avais eu avec Gabriel Diallo à Toronto cet été. Puis tu sais, je lui disais à quel point je trouvais ça fascinant, la force, la vitesse à laquelle il frappait des balles. Puis il m'avait dit, oui, mais il y a un gars qui s'appelle Ben Shelton que j'ai affronté à l'université, lui, il cogne. Puis si tu penses que moi, je cogne, regarde-le aller. Puis à ce moment-là, Ben Shelton, oui, c'est un joueur qui s'en venait, un espoir prometteur, mais je me disais, qui peut frapper vraiment plus fort que Gabriel Diallo, qui est déjà un mastodonte? Ben, force est d'admettre que Diallo ne s'était pas trompé, puis que oui, effectivement, Ben Shelton, non seulement il a prouvé qu'il était devenu l'un des meilleurs cogneurs de ce circuit-là, mais la capacité de gérer des matchs, puis on l'a vu dans de grands matchs, de grandes émotions, sous grande pression, sous haute pression, c'est-à-dire depuis le début de la saison. Pour moi, Ben Shelton, c'est un pack complet. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. En plus, il est gaucher.
Oui.
Je vous le dis, les gars, cette saison aussi, s'il ne remporte pas le trophée de la révélation de l'année de l'ATP, je crie au scandale.
Garanti. Et un petit point supplémentaire sur Shelton, Nico. Joueur gaucher, il y a un historique de grands champions gauchers du côté américain. Jimmy Connors, John McEnroe, Navratilova, juste pour les nommer. Là, je sais, on monte il y a très longtemps, mais les grands numéro un américains, il y a eu plusieurs gauchers. Je dis ça comme ça.
Et est-ce que je me trompe si, peut-être que là, présentement, rapidement, il n'y en a pas qui me vient en tête, mais est-ce que qui serait le dernier gros cogneur gaucher? Parce que oui, Nadal, il est fort, mais je ne pense pas qu'il peut le considérer gros cogneur. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit? Peut-être que Ben Shelton est peut-être un précurseur dans cette vague-là, parce que j'essaie de me rappeler comme ça, puis il me semble qu'il n'y a pas de joueur gaucher qui frappait aussi fort que Shelton. Donc, imaginez l'angle de ses services, notamment l'angle de sa prise de balle, ajouté à sa puissance divine. Et là, les gars, ça va faire des ravages.
Oui. Souvent, les joueurs gauchers sont plus joueurs et joueuses, sont plus des joueurs d'angle.
Exact.
Je dirais pas de toucher nécessairement, mais c'est des patterns souvent en angle qui sont compliqués pour leur adversaire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tant d'historique de très, très gros cogneurs gauchers. C'est vrai que c'est peut-être Nadal qui me viendrait en premier, mais c'est un gros cogneur, surtout sur terre battue, parce que sa balle est lourde. Mais c'est pas un gars qui frappe à plat.
Alors, c'est pas un sniper.
Exactement. Shelton va avoir beaucoup de balles à plat. Ouais. Et c'est là que c'est intouchable. C'est des fusées, c'est des missiles.
Hugues, avant qu'on aille à la pause, tu voulais parler de Shelton, mon fils.
Ben, je voulais parler de mon fils parce que mon fils a remporté le tournoi à Stockholm. Ouais. 37 ans, les gars, c'est un 12e titre. C'est le 6e joueur actif avec le plus de titres dans la compagnie des plus grands. Là. Donc, il fallait souligner la victoire de Gaël Monfils à Stockholm avec Svitolina dans les estrades qui le soutenait. Donc, c'est une très, très belle victoire de Gaël Monfils. Là. Et le tennis français aussi démontre de belles choses en ce moment. C'est un truc dont on parle aussi là, depuis quelques temps. Arthur Fils qui a fait la finale contre Bublik, Antwerp à Anvers en Belgique. Finale perdue, mais quand même, je voulais souligner là, la victoire de Gaël Monfils qui est quand même historique là, à 37 ans pour un 12e titre pour ce grand joueur.
D'un gars qu'on n'attend plus nécessairement et que lui-même n'attend plus ça de lui. Je ne sais pas si vous avez entendu l'espèce de table ronde qu'il a fait pour Patrick Mouratoglou, avec Patrick Mouratoglou, en fait, et Benoît Paire. C'était vraiment, vraiment intéressant comme conversation. Là, c'est disponible sur YouTube si vous avez une chance d'aller l'écouter. Mais on dirait que lui-même, tu sais, se disait, ben, je joue parce que j'aime le jeu et j'essaie de gagner à chaque fois, mais tu sais, c'est correct si je ne gagne pas de grand chelem dans ma carrière, puis c'est correct si j'en gagne plus de titres. Et puis, ben, quelques semaines plus tard, il va chercher le titre. Alors ça, c'est bien intéressant pour Gaël, mon fils. Un des fan favorites, ça, c'est sûr, un des gars qui a remarqué l'histoire du tennis. Non pas juste à cause de ses résultats, quoique ses résultats sont plus qu'exceptionnels comparés à la moyenne des ours là, et comparés à la moyenne des joueurs, mais il reste que c'est un gars qui, tu sais, on parlait de charisme, il a un charisme complètement fou et son jeu complètement éclaté par bout aura marqué cette génération-là et aura marqué l'histoire du tennis. Puis il faut rappeler aussi que lui, ben, il aura fait partie de cette génération du Big Three. Alors, qui sait s'il n'avait pas eu un Federer, un Djokovic, puis un Nadal dans les pattes à chaque tournoi, parce que dans cette discussion-là, c'est ça qu'il disait. Il disait, si t'avais, il dit quelque part, là, à chaque fois que t'avançais dans le tournoi, t'avais un Big Three dans les pattes, puis si t'en battais un, ben t'en avais un deuxième qui suivait tout juste après. Alors, écoutez, c'est pas évident là, de naviguer cette ère du Big Three. Messieurs, on va faire une. Oui, Hugues, avant qu'on aille.
Tu fais un point sur le Big Three. Il y avait un anniversaire historique important le 21 octobre. C'est la journée où David Nalbandian a été le seul joueur à battre le Big Three dans un même tournoi, les joueurs un après l'autre. C'était en 2007 au tournoi de Madrid, qui était à l'intérieur à l'époque, à l'automne. C'est le seul joueur de toute l'histoire, David Nalbandian, l'Argentin, à avoir battu coup sur coup Djokovic, Nadal et Federer. Je voulais qu'on mentionne quand même cet anniversaire-là qui n'est pas banal.
Oui, c'est pas banal. Et puis, même un certain bout, Nalbandian avait un peu le numéro de Federer par bout, là, sans dire que c'était sa bête noire. Là, mais tu fais bien de le mentionner. Intéressant. On va faire une courte pause. Et au retour, on va parler de cette équipe de la Coupe Davis qui est confirmée. Et puis, on va regarder les tournois qui s'en viennent.
Offrez-vous un séjour à l'Hôtel Montville et bénéficiez de l'offre Qui soupe d'or, incluant un rabais de 15% sur le meilleur tarif. Un petit déjeuner gourmand et un souper 3 services dans le restaurant de l'hôtel, tout en profitant d'une chambre luxueuse en hauteur. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'Hôtel Montville et profitez de notre offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
On avait déjà une bonne idée de l'idée de la coupe de l'équipe de la Coupe Davis. Et là, on aura Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Alexis Gallarneau et ils seront accompagnés de Milos Raonic et Vacek Pospisil. C'est dans un mois, ça, à peu près, la Coupe Davis. Alors, on n'en fera pas un grand état, mais ce que je trouve intéressant, Hugues, c'est la présence québécoise à l'intérieur de cette équipe-là. Et Milos et Vacek sont des Québécois naturalisés ou presque.
Oui. Les gars, on est en voiture pour les finales de la Coupe Davis là, qui s'en viennent du 21 au 26 novembre. J'aime beaucoup cette équipe-là parce qu'on a notre leader, Félix Auger-Aliassime, qui, je pense, va avoir les crocs sortis pour aller chercher une performance et sauver, et protéger, défendre ce titre qu'on a remporté en 2022. Mais on a aussi maintenant nos deux armes secrètes en Gabriel Diallo et Alexis Gallarneau qui sont un peu moins connus de tous les joueurs, donc qui donnent un facteur de surprise pour Fran Dancevic, le sélectionneur et coach de l'équipe. Je pense qu'on peut déranger beaucoup d'équipes dans cette phase finale. Puis effectivement, avec des valeurs sûres comme Vacek au niveau du double, et qui sait quel rôle pourrait jouer Miloš Raonic aussi. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette équipe-là.
Nico, commentaire sur cette équipe-là. Écoute, c'est pas gênant la profondeur qu'on a dans cette équipe-là.
Non, puis tu sais, tout au long de l'année, avec nos podcasts, avec les analyses qu'on a fait, si on nous réécoute, on peut s'apercevoir rapidement que ça n'a pas été une grande saison pour le tennis canadien. Mm. Puis tout au long de l'année, puis plus le tournoi avançait, je me disais qui est-ce qu'on va sélectionner et est-ce qu'on va être capable de livrer la marchandise? Parce que pour la première fois de l'histoire, on arrive avec l'étiquette de champion défendant, ce qui n'est pas banal. Mais là, je me suis mis à regarder l'alignement de près. Puis je me suis dit, OK, Alexis, probablement sa meilleure saison en carrière. Diallo, idem, remporte un tournoi. Miloš, on ne l'attendait pas, il a battu un top 10 à Toronto sur le central. Félix demeure le meilleur joueur canadien qui a déjà fait de grandes choses. Moi, je ne suis pas gêné d'aller en Coupe Davis avec cette équipe-là, les gars. Loin de là, oui, on n'a peut-être pas des gros canons que d'autres pays amèneront, mais c'est une profondeur et surtout, Alex le dit, une chimie. On l'a vu l'an passé, c'est ce qui avait fait la différence tout au long du tournoi. Ici, tu amènes ces mêmes gars-là avec l'expérience et le momentum, oh là là, les gars, j'aime beaucoup les chances du Canada. J'aime beaucoup les chances du Canada.
Surtout quand on regarde les résultats de la première de la ronde précédente, ce que Diallo et Gallarneau ont réussi à faire slash prouver. Écoute, tu peux être en confiance de dire, ben écoute, peu importe l'adversaire qu'ils vont avoir devant eux, ils auront au moins une chance de rivaliser, ça, c'est certain. Avant qu'on aille
Alex, me permets-tu un petit quelque chose? Rapide. On parlait hors d'onde de l'expérience universitaire de Diallo, de Gallarneau, mais dans ce genre de compétition, je trouve que c'est tellement sous-estimé.
Tellement raison.
Gars ont joué pendant 3 ans dans ce même genre de format. Ce sont des gars d'équipe. Le tennis, oui, c'est un sport individuel, quoi qu'on en dise. Mais dans ce genre de compétition, il n'y a personne qui peut traîner une équipe sur ses épaules. Mais Alexis Gallarneau, Gabriel Diallo savent, connaissent le tabac et ça, c'est une valeur ajoutée à ne pas négliger.
Non, 100%, t'as vraiment raison. C'est des compétitions qui sont similaires dans le format, dans l'ambiance également, là, qui sont un peu plus folkloriques que le tennis traditionnel, là, disons-le, comme ça. Avant qu'on aille faire un tour du côté des tournois qui s'en viennent où les Canadiens sont impliqués, je veux qu'on reste au Canada parce que se disputait la semaine passée le tournoi de Saguenay et Abraham Santerre. Avant qu'on parle des résultats, je veux que tu me parles de ton expérience. Comment tu as trouvé ça là-bas? Tu as couvert le tournoi, tu as travaillé pour le tournoi. À quel point tu as trippé? Puis à quel point, parle-nous de l'ambiance un peu, comment ça se passait là-bas?
Ben oui, ben en premier, je suis content d'être là, les gars. Je suis content de vous reparler. Ça fait un petit bout. Très beau tournoi. C'était la deuxième fois que j'y allais l'an passé. J'étais plus là pour le podcast. Cette année, ben le tournoi m'avait aperçu, puis ça leur tentait de s'impliquer avec moi pour qu'on lance la page Instagram, le Facebook, tout ça, qu'on organise des publications, tout ça. J'étais là pour aider là-dedans. Puis vraiment, un tournoi réussi, là. On n'a pas les chiffres encore, mais l'assistance va être battue encore une fois. Les estrades étaient pratiquement toujours pleines en soirée. Tu sais, on est en octobre, c'est encore, les gens travaillent le jour. C'est normal qu'il n'y avait pas de personne le jour. Mais c'était tout le temps des belles ambiances. Puis là-bas, c'est fait... C'est très petit, puis les joueuses sont très proches des partisans. Donc, c'est vraiment une expérience unique. Là. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des gens de Québec, de Montréal qui sont descendus pour ça, justement, parce qu'à Montréal, l'été, c'est un plus gros tournoi, tout ça. Fait qu'on ne peut pas voir les joueuses de plus proche. Il y avait juste un terrain de pratique. Les joueuses marchaient aux mêmes endroits que les partisans. Moi-même, quand j'ai vu Catherine Sebov, elle a gagné. Puis quand je suis reparti, ben on est parti en même temps. Puis elle était avec sa voiture, avec sa mère. Puis moi, je suis parti aussi de la même manière. Donc ça.
Dans leur voiture?
Non. J'allais pas faire un 12 heures de route jusqu'à Toronto. Là. Mais vraiment un beau tournoi aussi. Puis quoi de mieux que Catherine Sebov qui gagne pour une deuxième fois. Elle était la favorite. Puis elle a vraiment pas eu de la facilité, mais ça a été une balade, on pourrait dire. Là. Elle a pas perdu une manche dans le tournoi. Et ça a été quand même contre des bonnes joueuses en finale, contre Fanny Stoller, la Hongroise. Cette joueuse-là avait vraiment du potentiel. Puis dans ses matchs, elle avait montré son talent. La foule l'aimait. Donc, c'était pas à 100% pour Catherine Sebov en finale. Il y a aussi la Canadienne Isabelle Boulet qui s'est démarquée. Tellement un beau talent. Puis elle joue avec Ohio State à l'université. Puis c'était vraiment impressionnant. Elle s'est rendue jusqu'en demi-finale où Catherine Sebov l'a battue. Puis honnêtement, elle a pris tout le monde par surprise. Puis vraiment, une joueuse très gentille aussi. Non?
Bon, Abraham, victoire significative de Victoria Mboko contre Sakoussik, qui est une des joueuses en forme en ce moment. Peux-tu nous parler de ce match-là un peu rapidement?
Ben oui, ce match-là, c'était un deuxième tour. Là. J'appelle ça un match popcorn, comme on dit ici.
Ouais.
Puis Mboko l'a gagné en 3 manches. Elle avait perdu la première manche 6-4, mais c'était vraiment, il s'envoyait la balle, puis de temps en temps, c'était Stakusic qui avait les devants, après Mboko. C'était, je pense que c'est un des meilleurs matchs du tournoi, puis ça met de l'avant deux Canadiennes qui sont le futur du tennis canadien.
Ouais.
C'était un match haut en rebondissement. Personnellement, je pensais que Stakusic allait avoir le dessus parce qu'elle était sur une lancée avec le mois de septembre, ses deux premiers titres professionnels et tout.
Ouais.
Mais finalement, Mboko, là, ça a été impressionnant. Elle a su revenir dans le match. Puis par la suite, là, elle a joué contre Catherine Sebov qui l'a battue surprenamment, là, assez facilement. Là.
Quand même des résultats intéressants pour Catherine Sebov cette année. Là. Elle s'était qualifiée pour des tournois ici et là. Elle a joué un premier tour en Australie d'ailleurs. Elle a fait un deuxième tour à Miami. Elle a gagné à Toronto. Elle a gagné au Saguenay. Elle vient tout juste de le faire. Et puis une finale à Granby, on s'en souviendra. Là. Alors, c'est quand même pas si mal. Là. Deux titres cette année. Elle double sa production de titres au niveau ITF. Là. Alors, intéressant quand même pour Catherine Sebov. C'est pas la fille qui a le plus gros physique, mais c'est une fille qui travaille fort sur le terrain et pendant et
on peut voir ça avec Catherine et sa mère, là, c'est vraiment un travail rigoureux, une habitude exactement. J'ai parlé à Jérôme là-bas, c'est un de ses hitting partners qui est au Saguenay, puis que quand Catherine vient, ils frappent ensemble. Puis il m'a expliqué, moi, je ne peux pas rentrer 2 minutes avant l'heure qu'ils m'ont dit, je ne peux pas venir ramasser les balles, c'est dans le protocole, c'est Catherine qui ramasse les balles ou sa mère. C'est vraiment tout organisé, là. C'est vraiment impressionnant à voir, là, puis les petits détails. Là.
C'est une fille qui travaille très fort. Là. À Granby, on l'avait vu après la finale aller frapper des balles alors que le tournoi était terminé, alors qu'elle venait de connaître un bon tournoi. 20 minutes après, elle est allée frapper des balles. Alors, une fille très, très, très disciplinée au niveau de l'entraînement. Ça, c'est absolument certain. Quelques autres résultats intéressants. Au Tevlin à Toronto, là, bon, Seba avait décidé de se retirer du tournoi.
Ouais, en fait, là, le tournoi, il suit Saguenay. Là, c'est une habitude à l'automne. Là, Catherine Sebov s'est retirée parce qu'elle vient de gagner le tournoi à Saguenay, puis c'est quand même beaucoup d'heures de route se rendre là. Peut-être qu'elle veut se reposer pour la fin de l'année. Mais il y a beaucoup de joueuses qui étaient à Saguenay qui sont là, comme Mboko, Cadence Brace. Kayla Cross n'était pas à Saguenay, mais elle fait un retour à Toronto. Et il y a aussi, par exemple, Ling Sleeth, qui est à surveiller parce qu'elle a joué le plus long match de l'histoire du Challenger à Saguenay. Ça a duré 4 heures, 4 minutes au premier tour contre la Française Victoria Muntin. Un match interminable. Là. Nous, on... ce qu'on m'a dit, c'est que c'était des slices. C'est tout. C'était très long. Moi, je n'étais pas sur place, mais j'étais à l'école. Puis j'étais, mon Dieu, ça finit dessus. Moi, j'arrive à soir. Il y a d'autres matchs.
Et Burke, qui est déjà blasé par le métier.
Il a déjà monté la retraite des médias dans pas long. Là.
C'est ça. Puis sinon, il y a aussi Stakusic qui joue à Toronto. Là. Puis aussi, il y a Isabelle Boulet qui joue directement contre la deuxième tête de série au premier tour. Donc, ça va être à surveiller. Là.
Je vais mentionner rapidement que Liam Draxel va jouer à Saint-Augustin. Parle-nous de Diallo qui s'est quand même qualifié en France.
Oui, il s'est qualifié dans deux matchs de trois manches. Assez difficile, le dernier contre Jeffrey Blancano, un Français quand même prometteur aussi. Il a joué au premier tour hier et s'est incliné contre Radu Albot en trois manches encore une fois. Mais c'est un autre bon résultat pour Diallo. Là. C'est un Challenger 125. C'est quand même un niveau relevé. Là. Par exemple, la première tête de série du tournoi, c'est Richard Gasquet. Ouais. Donc, c'est quand même du bon niveau. Donc, ça, c'est à surveiller. Puis sinon, il y a les Jeux panaméricains qui ont lieu cette semaine. Là. Et deux joueurs qu'on connaît, Rebecca Marino, qui va jouer dans le simple féminin et le double mixte. Et au niveau des garçons, c'est Justin Boulet, le frère de Isabelle, qui a bien joué à Saguenay, qui va jouer. Il a gagné son premier tour là-bas. Et il va jouer au deuxième tour. Là. Là-bas, c'est des joueurs un peu plus loin classés, là, disons 500e au monde, tout ça. Donc, c'est un bon terrain de jeu pour Justin Boulet pour se pratiquer. Là.
Et Rebecca Marino également qui va être dans les Jeux panaméricains. Ça va être intéressant de voir elle parce que c'est pas le type de joueuse qu'on voit, comme tu le disais, nécessairement dans ce genre de compétition-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est une expérience qui ressemble un peu à celle des Jeux olympiques. Là. C'est, ben, en fait, pour beaucoup d'athlètes amateurs, c'est un passage obligatoire pour une répétition olympique. Là. Nico, tu serais plus en mesure de nous le confirmer, mais c'est quand même rare qu'on voit des joueurs de tennis.
Je peux prendre un exemple. Là, aux Jeux asiatiques qui ont lieu juste avant le tournoi de Shanghai, il y a le Chinois Zizang, je ne me souviens plus de son nom de famille, là, mais il a gagné ces Jeux-là et il a super bien joué à Shanghai. Je pense qu'il s'est rendu en quart de finale. Donc, c'est vraiment un tournoi où on peut prendre la confiance. Là.
Mais Nico, si je ne me trompe pas, c'est vraiment une répétition pour les joueurs, les athlètes amateurs là, avant les Jeux olympiques, de façon générale, les Jeux Paname.
Ce sont de mini-Jeux olympiques et ce qui est d'autant plus important pour les Panames, c'est qu'il y a plusieurs places olympiques qui sont acquises aux Jeux panaméricains. Donc oui, ce ne sont pas tous les pays comme aux Olympiques qui participent, mais le niveau est tellement relevé. Abraham en a parlé, le village des athlètes, c'est la même chose. La manière de procéder, la représentation, les cérémonies d'ouverture, de clôture, c'est pratiquement de mini-Jeux olympiques. Donc, Rebecca y soit, c'est très, très chouette.
Les Jeux olympiques ont quand même un certain prestige au niveau du tennis. Là. Peut-être pas au niveau des grands chelems dans le cas du tennis, mais c'est quand même assez prestigieux. Mais ça ne l'est pas quand même pour les Jeux panaméricains. C'est quand même rare qu'on entend là, des joueurs qui ont accompli beaucoup, comme Rebecca Marino, là, en tout cas, à ma connaissance, à moi, aller jouer ce genre de compétition.
Oui, puis je te dirais que de manière générale, c'est un peu moins reconnu. Là. C'est rare que, par exemple, lorsqu'on parle d'un nageur, ben, qu'on dise « il est champion olympique, champion du monde et champion des... ». C'est très, très rare que le Paname suit dans la liste au palmarès, mais ça demeure, comme je vous le dis, qu'en termes de répétition, d'habitude et d'expérience, c'est non négligeable pour des athlètes qui espèrent un jour aller aux Olympiques.
Et si je peux prendre une référence, là, je fais les « Saviez-vous » pour Tennis Canada, si je vous la prends, ben c'est ça. Puis en 2015, à Toronto, là, c'est Gabriela Dabrowski qui avait gagné le double féminin avec Carole Jao. Puis elle avait gagné l'argent aussi avec Philip Bester en double mixte. Donc, une petite référence.
Jean-Philippe Bester, qui a toujours eu beaucoup, beaucoup d'admirateurs dans ton patelin à Granby. Sa foule qui le suivait. Là.
C'est un de nos auditeurs, Charles Trapper, qui le supportait d'ailleurs.
Ah oui, hein? Bon, d'ailleurs, lui, c'en a un autre là, qui suit nos activités, puis on en est bien content. On va faire une courte pause, messieurs, puis ben, d'abord, avant que j'aille à la pause, merci Abraham, bien gentil.
De grave, Abraham.
très bonne chronique, je peux te remercier dignement et te saluer dignement avant
de te
flusher à la pause comme ça. Ben nous, on va faire effectivement une courte pause, et puis ben, au retour, on va regarder ce qui va se passer du côté de Bâle, où Félix Auger-Aliassime va fouler les terrains.
Offrez-vous un séjour à l'Hôtel Montville et bénéficiez de l'offre « Qui soupe dort ?» incluant un rabais de 15% sur le meilleur tarif, un petit déjeuner gourmand et un souper 3 services dans le restaurant de l'hôtel, tout en profitant d'une chambre luxueuse en hauteur. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'Hôtel Montville et profitez de notre offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
De retour sur la ligne de radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Merci encore à Abraham Santer qui est venu nous jaser du tournoi de Saguenay. Il a fait un excellent travail à la couverture du tournoi là-bas. Hugues, allons faire un tour du côté de Bâle. On va le suivre plus particulièrement ce tournoi-là parce que Félix Auger-Aliassime va être de ce tournoi. Un tournoi, il a bien fait dans le passé.
Deux gros tournois ATP 500 cette semaine. Bâle, donc en Suisse, la ville d'origine de Roger Federer, et Vienne, en Autriche. Deux très beaux tableaux de 500. Parlons de Bâle tout d'abord. Félix Auger-Aliassime qui rentre en sixième favori sur ce tableau où Casper Ruud et Holger Rune sont les deux favoris. Holger Rune 1, Casper Ruud 2. Deux premiers tours accessibles pour Félix. Donc, encore une fois, mais ce que je regarde, et c'est ce qu'il va réussir à défendre ses 500 points de l'an passé. Donc, tournoi important pour Félix là, avant le Master de Paris la semaine prochaine.
Ben, au premier tour, il affronte un Suisse qui a reçu un laissé-passer, là, Leandro Riedi. Au deuxième tour, ça serait quand même Botic van de Zandschulp. Oui. Et ça, ben, ça ne sera pas simple, surtout dans le contexte de sa saison. Et s'il fallait qu'il aille un peu plus loin, ben, il a quelques joueurs qu'il ne voudra pas voir sur son parcours. Là. Possiblement un Taylor Fritz, mais ça pourrait être un Max Purcell ou un Stan Wawrinka. Écoute, ce n'est pas nécessairement un tableau très, très simple pour Félix Auger-Aliassime. À quoi t'attendre du côté de Félix, Nico?
Ben comme je le disais tout à l'heure, tu sais, oui, chaque victoire est un acquis. Chaque victoire, je pense, peut le propulser. Mais tu l'as dit, un tableau qui n'est pas simple. Paraît-il que Taylor Fritz est quand même un peu bon aussi. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour Félix qui est dans une passe un peu plus difficile, quoique même présentement, ça va bien. Mais oui, c'est le moment pour Félix de protéger le plus de points possible parce que la glissade, il y en aura une, j'en suis convaincu. Il faut juste limiter la chute.
Ouais, vous n'êtes pas si optimiste que ça. Mais bon, contre Reddy, c'est quand même le 162e joueur mondial. Là. J'allais dire, ça devrait passer, mais il reste qu'il n'y a plus rien de sûr. Et Botic van de Zandschulp, ben, il a une fiche de 1-1 contre lui. Ouais. Alors, on verra par la suite qu'est-ce qui arrivera. Mais s'il fallait qu'il se rende en quart de finale, ce serait déjà pas si mal. Là, mais c'est un tournoi particulièrement relevé, là, tu le disais, Hugues. C'est un 500 où il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs. On en a nommé quelques-uns tout à l'heure, mais il ne faut pas exclure Andy Murray, d'ailleurs, qui a passé le premier tour. Et lui, ben, on est toujours content de le voir. Et Alex de Minaur qui est dans ce tournoi-là également. Hubert Hurkacz qui a gagné, on n'en a pas parlé là, la semaine passée, là, mais il a gagné un gros tournoi il y a deux semaines, en fait, là, pas la semaine passée. Alors, c'est un gars qui est très solide ces temps-ci, disons-le comme ça. Marco Giron est aussi dans ce tournoi-là, pas que c'est un gros nom, mais il a battu Félix la semaine passée. Il n'est pas dans la même partie de tableau. Quand même un match intéressant, Casper Ruud au premier tour, on parlait de ses succès relatifs cette saison, il aura Bublik dans les pattes au premier tour Et ça, ben, affronter public, c'est un gars qui peut vous sortir de votre jeu. Ben, si,
gagnant de son deuxième titre la semaine dernière, après ne pas avoir gagné un match depuis Wimbledon, c'est une boîte à surprise public. Là, donc, attention. Et je voulais te parler rapidement de Vienne aussi, qui joue en parallèle cette semaine, avec deux premiers tours de fou. Donc, Medvedev contre Arthur Fils, finaliste la semaine dernière, dans le haut du tableau, et Sinner Shelton dans le bas du tableau. Shelton gagnant aussi de la semaine dernière. C'est deux gros tournois. On voit que les joueurs veulent finir avec, veulent aller chercher des points. Il y a quatre places toujours disponibles pour les finales de l'ATP qui sont ouvertes. Donc, tous les joueurs là, du top 20 sont pas mal en action cette semaine.
Mais c'est ce que j'allais dire, Hugues, c'est que on parle beaucoup des tournois à venir, mais pour beaucoup de joueurs, la saison est loin d'être terminée. Ben oui. Si vous demandez à Félix Auger-Aliassime quels sont ses objectifs de fin de saison, l'une des premières choses qu'il vous répondra, c'est faire partie des finales. Donc, pour beaucoup de joueurs, tu l'as dit, rien n'est joué encore. Donc oui, ce sont des tournois peut-être de plus petite ampleur là, pour le commun des mortels, mais il n'y en demeure pas moins que littéralement chaque tour peut être déterminant pour la fin de saison parce qu'il n'y en demeure pas moins que Turin, dans le calendrier, surtout dans la bucket list, si vous me permettez l'expression, des joueurs en début de saison, ça figure très, très haut.
Oui, et mille beaux points à prendre la semaine prochaine à Paris aussi, n'oublions pas, ça peut tout changer là.
Ouais, beaucoup de gros noms, là, comme tu le disais. C'est un tableau qui est particulièrement rempli. C'est fort à balle, mais je pense que c'est plus fort à Vienne. Oui. Écoute, tu disais, premier tour, Ben Shelton, Yannick Sinner, là, c'est pas gênant ce premier tour-là. Il y a Francesc Tiafoe dans ce tournoi-là. Il a d'ailleurs battu Daniel Evans qui s'est retiré là, au premier tour. Cameron Norrie dans ce tournoi-là. Alexander Zverev est là également. Aslan Karatsev qui vient de faire la finale. On en parlait. Une espèce de resurgence. Lui, Tommy Paul aussi.
Premier Dimitrov qui joue bien.
Oui, exact. Mais je ne sais pas si c'est bien intéressant. Mais Tsitsipas, Dominic Thiem, est-ce que ça vous excite encore, Dominic Thiem?
Ben, ils sont en train de jouer. Là, match serré 7-6 au premier set pour Tsitsipas et 5-4. Il sert pour le match dans le deuxième au moment où on enregistre.
Et tu parlais de Medvedev, Arthur Fils au premier tour, lui aussi, qui est un match intéressant. Ouais. Mais si tu regardes juste en dessous, tu as Dimitrov contre Musetti. Exact. Il fallait qu'on ait un Medvedev-Dimitrov au deuxième tour. Avec la saison que Dimitrov connaît une excellente saison. Et Medvedev, ben, on sait à quel point il est bon, il est la première tête de série. Beaucoup d'éléments intéressants dans ce tableau-là, mon cher Hugues. Est-ce qu'il y a un match qui t'intéresse plus qu'un autre, à part les gros matchs popcorn qu'on vient de nommer?
Ben, moi, je mets une attention spéciale sur Shelton Sinner, là, qui sont deux des joueurs de la nouvelle génération, deux potentiels top 3. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler, ce match-là. Donc, ça, c'est mon match popcorn du premier tour, là, Shelton Sinner.
Du côté de la WTA, il y a des tournois. On est encore en Asie. Là, il y a comme une espèce de showcase, ce tournoi WTA Elite.
Zhuhai.
Oui, exact, à Zhuhai. Est-ce que tu es déjà allé à Zhuhai?
Je ne connais pas Zhuhai, mais je suis sûr qu'ils font d'excellents dumplings.
Ça se pourrait très bien. C'est un showcase. C'est un tournoi qui ressemble étrangement au final de la WTA. Là, c'est des groupes de joueuses qui sont ensemble et puis doivent gagner un tournoi à la ronde, là, en fond, avant de passer à la phase... J'allais dire phase de médaille, là, mais la phase éliminatoire, si on veut. Puis un tournoi également au Mexique qui se dispute présentement. Il n'y a pas beaucoup de joueuses là, bien connues dans ce tournoi-là, là, pour être bien honnête. Il y a Tamjanovic qui est là, mais pour l'essentiel, c'est un tournoi relativement discret au niveau des joueurs joueurs élites. Là. Alors, du côté féminin, c'est un peu plus tranquille, à part le WTA élite. Messieurs, si vous le voulez bien, on va terminer avec un dernier sujet. Et je ne veux pas qu'on en fasse une longue histoire, mais on a appris ce matin que Simona Halep allait contester sa suspension. Est-ce que c'est contestable, Hugues? Est-ce que tu penses qu'on va en finir avec ce dossier-là? Et surtout, est-ce qu'on va revoir Simona Halep, selon toi?
On l'a revue à l'entraînement cette semaine. Elle a l'air sérieuse. Évidemment, suspension de 4 ans, c'est la fin de sa carrière si ça passe. Donc, elle se doit de faire appel si elle veut avoir une chance de rejouer au tennis. Et je pense qu'il y a eu apparemment des irrégularités là, dans le processus. On va rappeler là, que c'est l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis là, qui l'avait condamné au mois de septembre. Il faudra suivre ce qui se passe. 32 ans, Simona Halep. Ce que l'ITIA a dit, c'est qu'elle avait enfreint volontairement les règles. Elle conteste cet élément-là au niveau de son passeport biologique. Donc, à suivre. Mais moi, je suis content qu'elle fasse appel pour qu'on aille plus loin sur cette histoire. Et apparemment, il y avait des doutes là, sur le processus.
Oui, bien, elle, aux dernières nouvelles, elle met toujours la faute sur une contamination de ses suppléments alimentaires. Là. Nico, je te pose la même question. Est-ce que tu penses qu'on va revoir Simona Halep? Est-ce que tu penses qu'elle a des chances de gagner son appel?
Bien, comme Mug l'a dit, tu sais, 4 ans dans le contexte dans lequel elle est, c'est la fin des haricots. Ouais. Mais je me dis, j'aime croire qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ça ira en appel. Mais en même temps, je me dis qu'après un tel dénouement, c'est difficile de croire à la version de Halep parce qu'il y a des autorités qui ont fait leur boulot. Donc, je suis encore un peu mitigé, moi, entre le bon et entre le vrai du faux. Là. Mais c'est évident qu'Halep, c'est une joueuse qu'on a aimé, je pense. Là, puis je parle au nom de toute l'équipe, c'est une joueuse qu'on a aimé voir jouer. Si elle peut revenir, pourquoi pas? Mais uniquement, tu sais, ultimement, je veux pas de tricheuse dans mon sport non plus. Donc, je suis encore un peu entre l'arbre et l'écorce.
On est un peu tout tombé, peut-être qu'on est biaisé, on est un peu tout tombé en bas de notre chaise quand on a appris. En tout cas, c'est pas le type de joueuse à laquelle on s'attendrait de voir. Écoute, ça se peut là, qu'elle le soit, là, je dirais, des tests qui sont très objectifs et puis des organisations sérieuses qui couvrent tout ça. Là, mais on jase là. Tu sais, Hugues, tu dis que ce serait la fin de sa carrière, mais elle a 32 ans, ça fait qu'elle revienne à 35-36. Ouais. Est-ce que ce serait pire que, bon, ces joueuses qui ont accouché, qui ont décidé de garder des enfants à la maison puis sont venues quelques années plus tard?
Simona Halep n'a jamais eu un jeu dominant comme celui d'une Caroline Wozniacki, par exemple. Donc, moi, je pense que physiquement, pour elle, c'est une joueuse de petite stature relativement par rapport à Pedro Rosso au circuit. Je pense que 4 ans... en dehors de l'action, serait trop long pour elle pour revenir au plus haut niveau à 35 ans. Donc, moi aussi, je suis pas mal sûr là, que si jamais elle perd sa cause, on ne reverra pas Simona Halep. Et j'avais fait un parallèle avec la cause de Sharapova il y a quelques années. Grande championne, numéro 1 mondial. La WTA, les autorités veulent peut-être envoyer un signal aussi aux autres joueuses, sachant qu'il y a des fortes chances qu'elles ne reviennent pas de toute façon. Pour dire, voyez, même les plus grandes ne sont pas à l'abri d'une sanction importante. Donc, moi, je pense qu'on a de fortes chances de ne pas revoir Simona Halep avec cette cause-là.
Ouais, c'est pas impossible. C'est dommage parce que c'est une fille qu'au Canada, on apprécie beaucoup. Elle a gagné beaucoup. Elle est toujours charmante avec les partisans canadiens. Là. Ça sera un autre dossier à suivre dans le cas de Simona Halep, mais je voulais qu'on en parle parce que la nouvelle, elle est tombée aujourd'hui. Nicolas Richard, c'est la conclusion de l'émission et comme c'est la tradition, je t'invite à terminer l'épisode d'aujourd'hui.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Haber, bon tennis tout le monde.